Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Et les GG sont prêts, évidemment. Marion Bartoli, Marc Maggio, Julien Beneteau, Simon Dutin, les grandes gueules du sport. C'est votre émission jusqu'à midi. Merci de nous écouter. Merci de votre fidélité. Il est 11h06. Vous écoutez RMC. Dans quelques instants, nous sommes à une semaine de Roland Garros. Faut-il s'attendre à une édition exceptionnelle de la part de nos Français? Il y a quelque chose. Il y a une petite musique qui monte, qui monte, qui monte. Vous allez en parler évidemment. 11h30, le dossier des GG, la journée de lutte contre l'homophobie aujourd'hui en Ligue 1, fait encore polémique, mais moins que les saisons précédentes. Sentez-vous une vraie progression? Je vous poserai la question. Et puis 11h45, évidemment, le débat caché. Vous ne savez rien, mes GG, mais pourtant il faut débattre. Et pendant la pub, tu me disais, Julien, que tu avais bien travaillé sur le débat caché, que tu avais quelques pistes. Vas-y, donne-nous tes pistes comme ça.
Yeah, j'ai 2-3 pistes. Du rugby, on n'en a pas parlé. Il y a quand même le top 14 qui va rentrer dans le Money Time avec de l'enjeu à tous les étages. Le Stade français va descendre, ils font un rappel aux anciens, un truc comme ça, tu vois, est-ce que vous y croyez? Bref. Le foot, pour revenir dessus, les play-offs en Ligue 1, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ou l'histoire de la première, du modèle de la première ligue là sur la Fédé, le fait que la ligue de football disparaîtrait, que la Fédé reprend le dessus, la brune enfin dehors. Est-ce que vous aimez ça? Enfin, toi, t'es capable de faire ce genre de choses?
Ok, moi je suis capable. Je suis capable. Ok, quelques propositions. Voilà. Il a envie d'être dedans. Il a envie d'être dans le match. Je vous dévoile tout ça dans une 30-40 minutes, ok, pour le débat caché, les amis. Évidemment, vous ne savez rien, mais vous allez devoir débattre sur un sujet. Allez, tout de suite, on débute cette nouvelle heure avec cette citation de Gaël Monfils, c'est de circonstance, Gaël Monfils qui a dit un jour, quand on fait un truc une fois, les gens ont conclu qu'on le fait tout le temps.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
J'avais dit quoi ?
Corentin Moutet est en 8e de Roland-Garros pour la première fois de sa carrière après un match formidable.
Encore faut-il croire quelque chose dans le monde.
C'est fini ! C'est fini ! Hugo Humbert est en finale de Bercy. Ah. Victoire donc de Hugo Humbert en 3 manches, 6-7, 6-4, 6-3. Hugo Humbert, 5e français en finale ici à Bercy.
J'ai dû demander à mon voisin de me pincer pour être sûr que je ne rêvais pas.
C'est un ace extraordinaire. Gaël Monfils, à 38 ans, il se qualifie pour les 8e de l'Open d'Australie.
J'ai l'impression de rêver.
Arthur a cette ambition-là. Cette ambition, c'est de dire je peux battre tous les joueurs devant moi. Oui, il a le potentiel de gagner un grand chelem, de gagner un Roland-Garros.
La belle croyance que voilà.
J'y crois.
Quelle chanson incroyable. Et oui, on y croit encore, on y croit toujours dans les grandes gueules du sport. Dans une semaine débutent les Internationaux de France. L'édition 2025 de Roland-Garros, c'est cette année. Un vent d'optimisme est en train de souffler sur le tennis français. Contrairement aux éditions précédentes, la question n'est peut-être pas de savoir s'il y aura un Français en deuxième semaine, mais combien de Français seront en rendez-vous de ces huitièmes de finale? Voire mieux, Arthur Fils, Mpetshi Péricard, Gaël Monfils, Hugo Humbert, Corentin Moutet. Les surprises peuvent venir de partout ou de nulle part. La musique qui fout les jetons est cette question. Faut-il s'attendre? Est-ce que vous attendez à un Roland-Garros exceptionnel des Français? Oui ou non? Simon Dutin?
Non.
Marion Bartoli?
Alors on va redéfinir Roland-Garros exceptionnel en termes de résultats et après ça je vous répondrai.
Ok, je vais définir ça dans quelques instants. Marc Maggio?
Non, moi j'ai envie de dire oui.
Tu as envie de dire oui, cocorico, bravo, la main sur le cœur. Julien Beneteau?
Moi, je suis avec Marion, là. J'attends la définition d'exceptionnel.
Oh là, les tennismans.
Excusez-nous d'avoir joué.
Exactement. Je vous donne la définition et ensuite on refait partir la musique qui fout les chenons. Ok, Alban Azaïs, on peut arrêter la musique. Je vous donne la définition de Roland Garros exceptionnel. Évidemment, je ne parle pas de victoire finale.
Oui.
Ok, on ne parle pas de victoire finale. Sauf que l'année dernière, par exemple, et même les années précédentes, on avait souvent un Français, on pouvait espérer une surprise, un Français qui arrive à se hisser en huitième de finale. Là, je ne vous parle pas d'un Français, mais je parle de deux, de trois, et peut-être évidemment voir la porte des quarts de finale, pas loin d'une demi-finale. Vous avez compris l'idée exceptionnelle, exceptionnelle, extraordinaire par rapport aux éditions précédentes. La musique qui fout les jetons est cette question. Faut-il s'attendre à un Roland-Garros exceptionnel de la part de nos Français? Julien Beneteau?
Deux Français en huitième, un en quart, j'y crois. Au-dessus, non.
Marion Bartoli?
Également, mais pour moi, un Roland-Garros exceptionnel au vu des résultats précédents des Français serait une demi-finale. Mais je suis d'accord avec Julien, je pense que de 8e à 15, on y va.
Elle vise la demi-finale, bravo. On va retrouver notre spécialiste tennis, Eric Salio. Salut Eric.
Salut à tous.
Tu as besoin que je redéfinisse le mot exceptionnel?
Non, j'avais compris, moi.
Rome, il est bien, là, regarde. Il était au
Foro Italico.
Il faut rire.
Il faisait moche à Rome.
Con il nostro Yannick.
Il faisait très beau à Rome.
Ah bon? Bah, Eric, t'es pas sorti de la cabine. Ou alors t'es resté à l'hôtel.
Vous allez rire, mais le centre de presse, il y a deux centres de presse. Moi, j'étais dans le centre de presse BIS. C'était une auberge de jeunesse.
C'est le problème.
Aménagée.
Très bien. Il n'y avait pas des UV là-bas?
Non.
Non. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a, Marc? Non,
il a pris la fumée à Rome.
Ah oui.
Oh,
exact.
La fumée blanche.
Oh, rapport avec l'actualité et tout ça. Bravo, Marc. Alors Eric, quel est l'état de forme là, tout de suite, maintenant, à l'heure où on se parle? Il est 11h, 12 minutes et 15 secondes.
Non mais stop, on va pas tourner autour du pot. Les yeux tricolores seront braqués sur Arthur Fils. Il a rivalisé avec Carlos Alcaraz à Monte-Carlo. Il sera tête de série numéro 14, ce qui constitue une protection toute relative. En effet, s'il atteint la deuxième semaine, il tombera forcément en huitième de finale sur le numéro 1, 2, 3 ou 4. Alors là, il faut préparer la boule chaude. Il faut que ce soit Taylor Fritz. On pourra rêver. En tant que grand frère protecteur, Gaël, mon fils, apprécie la trajectoire de l'Essonien, qui n'a que 20 ans, je le rappelle, la Monf.
C'est vraiment un joueur qui a une belle marge de progression et qui est déjà très très haut. Il arrive à son rythme tranquillement, pas lui mettre de pression. Il commence à prendre son expérience, ça doit être ça. Troisième année pratiquement sur le circuit, on va dire, qui commence à trouver sa routine aussi de grand joueur. Et après, voilà, pour lui, forcément, je vois un beau futur.
Ça, c'était à Monte Carlo. Et à Monte Carlo, on a écouté aussi Richard Gasquet qui prédit un avenir radieux à Arthur Fils.
Il a une belle attitude, il se bat sur le court, il a beaucoup de tempérament. Je trouve qu'il a beaucoup d'envie aussi, beaucoup de caractère et beaucoup d'ambition pour la suite. Quoi. C'est ça qui est important. Pour moi, il a la capacité vraiment de gagner un grand chelem. Il en est largement capable.
Alors, comme il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier, on suivra effectivement avec passion Corentin Moutet, déjà 8e de finaliste l'an passé. Sans faire de bruit, Giovanni Pecci-Péricard est en train de retrouver des couleurs cette semaine en Challenger. Et s'il gagne Bordeaux, il sera même tête de série. Puis il faut pas oublier Hugo Humbert. Si sa fracture du métacarpe est totalement cicatrisée, il pourra s'exprimer pleinement. Et puis, il peut y avoir une merveilleuse surprise. Dois-je vous rappeler l'épopée inattendue d'Hugo Gaston en 2020? Et puis, il y avait aussi Julien Benneteau, je crois, qui a fait un quart de finale il y a quelques années. Et ça, on l'avait pas du tout prévu.
Exactement. Bravo de nous rappeler évidemment le parcours de Julien Benneteau.
Juste pour une précision. Non mais c'est bien de faire que le tennis masculin.
Non. Alors, on va pas faire le tennis féminin sur Roland Garros, sinon on sait très bien que ça va être compliqué. Marion. Et Marion, on se souvient évidemment de tes demi-finales. Juste une précision.
Ah non, mais moi je parle de titre de Marie Pierce. Je ne compte pas dans l'équation.
Eric, quand on fait des demi-finales, on compte quand même dans le tennis français. Juste Eric.
On n'avait pas vu Marion en demi aussi.
Eric, c'est précision très importante parce que là, je ne résiste pas. Carpe, c'est un énorme poisson ou pas? Quand tu parles, il y a un problème au métacarpe, c'est un gros poisson.
C'est
métatarse, métacarpe, je sais plus, oui.
Non, mais je voulais savoir,
c'est au doigt.
Ouais.
Métatarpe, c'est au pied, métacarpe, c'est au haut à la main.
Voilà. C'est un gros poisson, c'est tout, la métacarpe. Ouais. Passons à autre chose. Marion Bartoli.
Très bonne intervention, Jean-Christophe.
Je me suis dit que ça manquait d'humour. C'était ça le problème de cette émission.
Quand c'est bien, il faut aussi le dire. Bravo Jean-Luc.
Roland Garros exceptionnel ou pas, Marion?
Alors, j'aimerais quand même redéfinir le mot exceptionnel parce que pour moi, je suis désolée. Non, mais je suis désolée. Quand on a. Alors, je ne vais même pas remonter aux années d'Henri Lecomte qui avait été à la finale, mais si on remonte dans les années plus récentes, donc passé 2000, on a quand même Sébastien Grosjean qui fait demi-finale de Roland Garros en 2001 en battant André Agassi en quart devant Bill Clinton. Après avoir pris une rousse au premier set en prenant 6-1, Bill Clinton arrive dans la tribune présidentielle et Sébastien Grosjean arrive à retourner le match et se qualifie pour la demi-finale. Ça, je parle d'un Roland-Garros exceptionnel. Quand Gaël, mon fils, atteint la demi-finale à Roland-Garros en 2008, pour moi, c'est un résultat exceptionnel. Quand Jean-Wilfried Tsonga le fait à double reprise en 2013, surtout en battant Roger Federer en 3-7, en quart de finale, en quasiment le corrigeant, pour moi, ça, c'est un Roland-Garros exceptionnel. Il l'a fait également en 2015. Je crois que le tennis français, pour appeler un Roland-Garros exceptionnel, donc qui sort de l'ordinaire, effectivement, ça atteint le dernier carré. Alors là où je rejoins, et je pense qu'on est totalement d'accord avec Julien, je pense qu'Arthur a totalement le potentiel d'atteindre les quarts de finale. Il faudra un tout petit peu un tirage favorable et il faudra aussi, surtout, qu'il arrive à gérer la pression énorme qu'il va avoir sur les épaules parce que les attentes médiatiques vont être colossales, qu'il n'a pour l'instant jamais remporté un match à Roland-Garros, que ça soit dans le tournoi du Grand Chelem ou aux Jeux Olympiques qui sont déroulés à Roland-Garros. Donc il faudra quand même aussi pour lui arriver à passer ce cap de jouer devant le public français, de répondre aux attentes, d'être celui qui éventuellement peut aller le plus loin. Et c'est pas une mince affaire parce que tu peux tirer un Fonseca au premier tour qui va pas être tête de série, qui a 18 ans, qui est déjà 60e mondial, 64e mondial cette semaine, qui peut être un sérieux client. Tu peux prendre aussi un Alexandre Muller qui est un autre français, un duel franco-français au premier tour quand t'as pas gagné de match à Roland-Garros. Ça peut être compliqué et je peux étendre la liste à quelques joueurs qui seront non tête de série, sans même parler des têtes de série qu'ils peuvent affronter. Donc, dans tous ces éléments pris en compte, qui est effectivement des Français qui arrivent à s'extirper de tout ça, qui soit en deuxième semaine, voire en quart de finale, moi j'y crois très fortement. Mais je tiens à préciser que pour quand même remettre le tennis français là où il est et ce qu'ont été capables de faire les joueurs précédents comme réel exploit, pour moi un Roland-Garros exceptionnel, c'est d'avoir un Français ou une Française dans le dernier quart.
Ok, un quart de finale, ça ne suffit pas. J'ai bien compris Marion et tu as bien défini le mot pour toi d'exceptionnel. Julien Benetton.
Il peut y avoir une autre façon de considérer que ça peut être exceptionnel. C'est le nombre de joueurs présents en deuxième semaine. Si on a, en 2008, nous, on était 5 en huitième. Bah, ça, c'est exceptionnel. Mmh. Ouais. Parce que la masse, et même si on perd tous en huitième, OK, le fait qu'on ait 5. Donc là, tu vois, si on a un Arthur Fils, un Moutet, un Alexandre Muller qui joue très bien sur terre battue, un Giovanni Empeci, qui font des exploits, parce que ça veut dire que ces mecs-là, pour arriver en huitième, un Moutet, il est pas tête de série. Ouais. Un Empeci, s'il est tête de série, il sera tête de série entre 25 et 32. Ça veut dire qu'il va sortir un mec dans les 10, 12 premiers, obligatoirement, pour être en huitième. Donc, ça voudra dire qu'on aura vécu, entre guillemets, des exploits, des choses. Donc, s'il y a une masse de joueurs, sans aller dans le dernier carré, mais 4 ou 5, français en deuxième semaine, alors ce sera un très 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 bon Roland Garros. C'est un Roland Garros exceptionnel parce que ça arrive pas souvent qu'il y ait autant de joueurs que ça, en deuxième semaine.
Ok, c'est déjà arrivé, mais est-ce que tu y crois là pour 2025?
C'est possible. Ça dépend. Le tirage au sort.
Ouais, le tirage au sort a une grande importance. L'importance énorme.
C'est énorme.
Ça veut dire que après le tirage au sort là, dans une semaine, c'est jeudi prochain, j'imagine, Eric Salio.
Je fais souvent ça. Je fais souvent des prédictions. non, mais c'est vrai. En fonction du tirage au sort.
T'es avec nous samedi prochain. Hein. Je te repose la question samedi prochain. Ah oui, regarde ton planning. Ouais,
non, mais il faut quand même se rendre compte que de toute façon.
Quand j'étais capitaine et que j'arrivais sur les grands chelems, je prenais le tableau final hommes et femmes. Et là, je disais, OK, il y en aura un ou deux au troisième tour. Une ou deux autres. Hein,
en et ça se passait pas
samedi
souvent.
Prochain, tu te mouilles. Samedi prochain, tu te mouilles.
Okay. Je ne dis pas qui.
Non, mais.
Mais je me mouille. Je donnerai un nombre que je pense. Voilà ce qui peut se passer.
OK. Marion, rapidement, et puis après.
Ce qui est certain, c'est si on prend les têtes de série de 1 à 8 aujourd'hui, qui vont être alignées à Roland-Garros. Donc, je vous le donne dans l'ordre. Sinner, Alcaraz, Zverev, Fritz, Rapper, Djoko, Rude et Musetti. Pour que le seul joueur qui peut éventuellement ne pas être présent en quart, c'est Fritz. Les autres, je ne vois pas, au vu de ce qu'ils sont capables de jouer actuellement comme tennis, qu'ils ne soient pas au rendez-vous des quarts de finale. Et je vous cite même pas les Cerundolo, les Tsitsipas, et ces joueurs-là, Tsitsipas qui était double finaliste à Roland-Garros, Runeux, qui sont capables, Tommy Paul qui a mis quand même 6-1 à Sinner hier. Voilà, il y a quand même du monde, hein. Faut attention, il y a quand même vraiment du monde.
Ok, Simon Dutin.
Je suis content parce que j'avais peur de me faire taper sur les doigts avec Julien et Marion dans le débat, parce qu'évidemment moi je n'y crois pas. Après c'est la martingale, hein. Chaque année un jour on va finir par avoir un Roland Garros exceptionnel, mais là je suis aligné avec à la fois Marion. Si on en a un en demi, bah, c'est monstrueux, Arthur Fils ou un autre. Je suis un peu comme Julien, c'est le temps ralenti à Roland Garros. La première semaine, elle est très 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 longue. Donc si en effet on avait, je sais pas, les quatre joueurs en deuxième semaine,
mais ça c'est possible.
Pour susciter un petit peu de Eric a rappelé, il a fait le match avec Alcaraz, Arthur Fils a fait le match avec Alcaraz, il a pris une fessée une semaine après, alors que justement donc doucement, il a jamais gagné un match à Roland Garros. Qu'il aille déjà en huitième, ce serait absolument
pour sa progression à lui, ce serait déjà bien.
Oui, mais en revanche, je suis pas convaincu qu'un Arthur Fils en demi et tous les autres sortis dès la première semaine, ce soit vraiment si exceptionnel.
Ça sera quand même monstrueux.
Non, mais je parle pour le tennis français, pour le public. Je suis pas sûr que ça servirait un petit peu la progression, la dynamique. Vous avez souligné que la densité au très très haut niveau, elle s'est un peu diluée, c'est-à-dire il y a plus trois mecs qui dominent, mais il y en a huit qui sont quasiment injouables à ce niveau-là. Et puis voilà, on va pas revenir sur
en grand chelem, c'est moins vrai. En grand chelem, je vois que trois mecs ou quatre maximum, trois qui peuvent gagner.
Ouais, mais à Roland, je sais pas. On va y revenir, le cliché de la pression, l'attente du public. T'es quand même pas à l'abri de te faire cirer par un mauvais équatorien, 400e mondial.
Non,
à 20h30.
On a été trop mal habitués,
donc je serais le premier ravi, mais j'y crois pas.
Là où c'est difficile, par exemple, c'est quand on prend un joueur comme Tsitsipas qui a fait une finale de Roland-Garros, il met 2-7-0 contre Djokovic, finalement il s'incline, il est quand même vraiment, il a qu'à 1-7 de soulever le trophée. Derrière, il joue Alcaraz les années qui suivent, mais il prend une dérouillée. Mmh. Et quand on interview Alcaraz à la fin du match, Alcaraz te dit, et c'est pas quelqu'un qui a le boulard ou le melon, il te dit, mais de toute façon, je ne peux plus perdre contre Tsitsipas. C'est-à-dire que je sais tellement comment jouer, je ne peux plus perdre. Et aujourd'hui, Tsitsipas, il est 20e mondial, alors que c'est quelqu'un qui était à 1-7 de remporter Roland-Garros. La concurrence est tellement difficile et tellement âpre là dans le tennis masculin actuel, ça joue tellement bien au tennis, il y a vraiment très peu d'écart entre les joueurs, qu'effectivement moi là je rejoins totalement Julien, c'est que déjà un quatuor en deuxième semaine, ça serait un réel
on signe tout
Roland
de suite.
Garros, okay. Ouais, totalement réussi.
Marc Madio.
Oui, alors au lancement de ce débat, il n'y avait rien d'exceptionnel, d'accessible.
Oui.
On est d'accord. Dans la longueur de vous écouter, je me rends compte qu'on peut être peut-être avec 3 ou 4 joueurs en deuxième semaine. Ouais. Donc là, on redevient dans l'exceptionnel. Donc moi, je vais m'arrêter là-dessus. Je pense qu'on peut être avec 3 ou 4 joueurs en deuxième semaine. Ah. Et ce sera exceptionnel.
En tout cas, on le souhaite tous. Ça, c'est la parole.
C'est le sage qui a parlé.
Ouais, exact.
Voilà, le sage a parlé. Juste, tu disais, il y a que 3 ou 4 joueurs qui peuvent gagner Roland Garros cette année. Tu peux les citer ou pas?
Ouais.
C'est ce que tu disais il y a quelques instants.
Sinner, Alcaraz.
Et Djoko.
Mais Djoko, il faut jamais l'enlever.
Ah, ouais.
Il sera là. Ça, c'est clair.
Et moi, je mets une grosse cote. Pas pour gagner, mais dans le dernier carré, c'est Draper.
Draper, il joue monstrueux.
Il joue, mais vraiment.
J'ai fait son match à Rome, bord de terrain. Ce qu'il envoie, c'est monstrueux.
Ouais. Ok, tu as les mêmes noms ou pas? Ou tu as une autre surprise à nous donner, Marion?
Draper, je suis pas sûr.
Non, j'ai exactement les mêmes noms. Je dis attention à Moussetti. Attention à Moussetti, ouais, qui revient très bien, qui avait break hier au deuxième set contre Alcaraz. Il se fait reprendre sur la fin du deuxième. Il n'arrive pas à conserver son break. Alcaraz a vraiment serré le jeu. Attention à Moussetti, qui l'année dernière avait vraiment poussé Novak Djokovic, on s'en rappelle, dans ses retranchements avec un match qui est fini à 3h du matin. C'est un joueur extrêmement dangereux sur terre battue, qui a une palette de coups énorme, un immense talent. Ouais. Donc attention à ce joueur aussi.
Draper, c'est le premier anglais gaucher depuis Jack Nadal Draper, dans le top 10, non?
Jack Draper.
Alors ça, Jack Draper, pardon. J'avais pas mis ma pomme de terre dans la bouche. Attends. Si je parle normalement, je dis Jack Draper. Et si je mets évidemment une pomme de terre, j'appelle Jack Draper. Voilà. Là, j'ai du mal à.
Mais tu dis toujours pas bien. C'est Draper.
Peut-être t'as raison. Je sais pas. C'est une belle stat.
Oui, non, mais il a raison, ton producteur. Oui.
Non, c'était ChatGPT là.
Nick, ok, vous ne croyez pas à ma connaissance sportive et ça me fait beaucoup de mal, surtout toi, Eric Salio. Mickaël nous appelle au 32-16. Salut Mickaël.
Salut l'équipe.
Mais Eric, t'avais raison, c'était mon producteur qui me glissait cette information. Mickaël, on est ravis d'être avec toi, évidemment, ce matin dans cette émission. Est-ce que tu t'attends à Roland Garros exceptionnel?
Alors, honnêtement, pour la première année depuis longtemps, je pense que la pression dont on parle tout le temps sur les Français et qui ont inhibé beaucoup de générations, je pense que Arthur VI, lui, par contre, ça peut le galvaniser. Et avec effectivement un tirage favorable, je pense que il peut atteindre le dernier carré. Après, ça suffira pas pour faire un Roland Garros exceptionnel. Et je pense qu'effectivement, avec Si après il y en a deux autres qui arrivent à sortir, deux, trois autres en deuxième semaine, là oui, on pourra parler de Roland Garros exceptionnel. Et cette année, j'y crois.
Ce que tu es en train de nous dire, Mickaël, c'est en gros, on a toujours mis la pression médiatique populaire sur les tennismen français et ils n'ont pas forcément très bien répondu à cette attente qui est longue. Mais là, Arthur Fils, ça change. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Marion et Julien, sur Arthur Fils? S'il y a bien quelqu'un qui peut supporter cette pression, oui, c'est lui. Est-ce que ça, on a des réponses?
Moi, j'aime pas la pression populaire et pas supporter Gaël Monfils, Joe Tsonga, etc. Et ils ont supporté la pression. Et puis même Roland Garros, la pression, ça aide les joueurs français. Il y a des joueurs français qui gagnent des matchs à Roland Garros qui gagneraient jamais dans d'autres grands chelems. Donc pour moi, il n'y a pas de pression pour moi.
C'est un faux débat, quoi.
Ouais.
Ok, Marion.
Quand j'étais joueur, je me suis toujours battu là-dessus. À chaque fois, c'était la même rengaine. Les journalistes, à 15 jours de Roland, alors il y a la pression. Bah non, on a un grand chemin à la maison. C'est fantastique. C'est pas parce qu'on gagne pas. On gagne pas ailleurs. On n'a pas gagné l'US, on n'a pas gagné Wimbledon. Enfin, Marion a gagné Wimbledon. Mais c'est plus son jeu qui s'apparente, qui mieux au gazon que de gagner sur terre battue. Elle a quand même fait demi à Roland. Donc, c'est pas comme si on subissait la pression. Au contraire, ça nous galvanise. C'est comme les Français autour de France. Vous avez la pression. Enfin, je pense que ça donne des ailes à Thibaut Pinot quand il est dans un col et qu'il y a tout le monde qui est derrière lui.
Mais ça sert d'excuse quand tu te fais sortir prématurément. Voilà.
Est-ce que tu as le souvenir d'un Français qui trouve une excuse en conférence?
Non, mais je veux dire, même nous, on est comptable de ça. Ils avaient trop la pression. Ils étaient trop attendus. Et c'est vrai qu'il y a toujours une excitation. Et Arthur Fils, il est quand même dimensionné d'une façon qu'on n'a pas connue avec cette génération. Enfin, dans la génération précédente, tu vois, t'as envie de le mettre sur au même étage que les Tsonga, les Monfils,
un mec. Pas passé au travers à cause de ça, certainement. Ça arrive. Mais dans la masse, il y a aussi des exploits qui sont faits.
Parce qu'il y a plus les Français.
Ces deux dernières années, on l'a refait ce débat dans les grandes gueules. On n'y croyait pas une seconde.
Non, il y a quelque chose. Bah, c'est pour ça qu'on voulait proposer ce débat.
Il y a le début d'Arthur.
T'es pas encore rentré de Rome, toi. Merci Eric Salio. Tu seras peut-être avec nous demain parce qu'on parlera de la finale de rêve à Rome demain entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz.
Énorme incidence, le fait qu'Alcaraz ait gagné hier. Il passe numéro 2. Et donc du coup, il est tête de série, il est sûr de ne pas être dans la même partie de tableau de Sinner.
Bonne information, c'est un peu comme Draper qui est le dernier.
T'arrives toujours pas à dire, c'est
Nadal à être dans le top 10 alors qu'il est gaucher.
Sinner est petite pointe derrière la cuisse hier, trois fois.
Il ferait pas son Joko celui-là, Sinner,
non ? On n'est pas très inquiet pour Yannick.
Il a pas bougé aussi bien que lors du début du tournoi.
Il a collé une bulle, non ?
Oui, mais le troisième était compliqué et il a serré les dents. Moi, je serais pas étonné que ce soit Alcaraz. Les paris RMC, là, je sais pas quelle est la cote, mais je mets tout sur Alcaraz.
On va pas se mentir, il a quand même un bon masseur, Sinner, donc s'il a un problème.
C'est honteux.
Ah, on peut pas faire cette vanne, c'est encore trop tôt?
Non, je suis outré.
Non, il a changé de masseur.
Oui.
Oui.
Et il est très bon le nouveau. Est-ce qu'il était avec Djoko? Okay.
Ne nous inquiétons pas, il sera prêt pour Roland-Garros.
Okay. Merci beaucoup Eric Salio d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour le dossier des GG. On va vous parler de cette journée de lutte contre l'homophobie, comme tous les ans, en Ligue 1. Et certains joueurs refusent encore de jouer le jeu, même si le jeu n'est pas vraiment le bon mot quand on parle de cette journée de lutte. On se retrouve dans quelques instants et on en parle, on ouvre le débat dans les grandes gueules du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet.
11h33, merci de votre fidélité. Si vous avez raté un morceau de cette émission, nous avons débuté à 9h. Nous avons parlé de l'Olympique de Marseille, de Léon Marchand, de Tony Yoka, de Roland Garros qui débute dans une semaine, de Montmartre aussi. Le Tour de France qui passera par la butte Montmartre comme lors des Jeux Olympiques. Bref, vous pouvez tranquillement vous pencher sur le podcast cet après-midi sur les différentes applications. On bat des records tous les mois. Merci de nous écouter. Toujours avec Marion Bartoli, Julien Benneteau, Simon Dutin, Marc Madio. Ce matin et dans moins de 10 minutes, c'est le débat caché. Je vous ai concocté un débat sur mesure pour vous. Et vous allez devoir réagir sur l'instinct, sur l'émotion, avec votre cœur, mes GG. Ça, ce sera dans 10 minutes. Mais tout de suite, on passe au dossier.
RMC, le dossier des GG.
Alors, c'est devenu une habitude en Ligue 1, une habitude à la marge, fort heureusement, mais une polémique qui revient saison après saison lors de la journée de Ligue 1 consacrée à une campagne de lutte contre l'homophobie. Ce sera donc le cas ce soir, à l'occasion de la 34e et dernière journée de notre championnat. Et certains joueurs refusent encore et toujours de jouer avec leur club, à l'image de Mostafa Mohamed, l'attaquant de Nantes, préfère zapper la rencontre pour la troisième année de suite, alors que les Nantais jouent leur survie en Ligue 1 ce soir. Arnaud Valadon, notre journaliste RMC Sport, est avec nous. Bonjour Arnaud.
Bonjour JC, bonjour les GG.
Alors les cas sont tout de même de plus en plus rares, hein, il faut le souligner.
Le cas de Mostafa Mohamed a même mis dans l'embarras son coach Antoine Comboiré jeudi. Le technicien kanak cherchait à justifier l'absence de l'attaquant égyptien.
Pour l'instant, il était en soins, donc voilà. quels sont les joueurs aujourd'hui concernés par le match et puis qui sont prêts donc aujourd'hui à aller chercher une victoire contre Montpellier. Le reste, donc j'attends de voir. Donc on aura une discussion là, je vais discuter avec lui pour savoir aujourd'hui où il en est.
C'est par un message sur les réseaux sociaux hier que Mohamed s'est justifié. Je crois au respect mutuel. Pour ma part, il y a des valeurs profondes enracinées liées à mes racines et à mes croyances. Ce qui rend ma participation à cette initiative difficile, a-t-il écrit. Le club va sanctionner le joueur et lui infliger une amende dont le montant sera reversé à une association. Pourtant cette année, la LFP a décidé de modifier son plan de communication. Fini le flocage arc-en-ciel sur les maillots. Place à un badge homophobie football avec le mot homophobie barré. Tout le monde jouera le jeu, les joueurs, les speakers, les diffuseurs télé. Sur les écrans géo, les panneaux publicitaires des 9 stades, la campagne pour cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie sera relayée. À Monaco l'année dernière, c'est Mohamed Camara qui avait masqué le symbole arc-en-ciel, puis ensuite refusé de poser pour la photo devant le slogan. Il avait écopé de 4 matchs de suspension. Le joueur est parti cet été, mais l'entraîneur est le même, Adi Hütter.
Tout le monde supporte la cause. On veut éviter ce qu'il s'est passé la saison dernière, donc les joueurs sont tous mobilisés. Il est normal de sanctionner ceux qui ne respectent pas les règles. Je pense que c'est la Ligue qui doit s'en charger.
Les maillots portés par les joueurs ce soir seront mis aux enchères dès lundi. Les fonds récoltés seront reversés à 3 associations. Cette saison, la commission de discipline a infligé 107 amendes au total et 3 fermetures de tribunes au stade pour des chants homophobes prononcés durant les matchs.
Merci beaucoup Arnaud Valadon pour toutes ces précisions. Est-ce que vous sentez une vraie progression dans cette lutte contre l'homophobie? En Ligue 1, évidemment, il y a ce cas de Mostafa Mohamed, vous pouvez en parler, mais est-ce que vous sentez la progression? Simon Dutin.
On m'a parlé dans le casque pendant ta question.
Est-ce que tu sens une vraie progression?
Bah, la progression, oui. Il y a encore 10 ans, il n'y avait pas de journée dédiée à la lutte contre l'homophobie. Il n'y avait pas de sanctions pour les chants homophobes en tribune, bien que je pense qu'on gagnerait à arbitrer un petit peu différemment. Je pense que tous les chants considérés comme homophobes ne sont pas en réalité... voilà, proféré par des gens qui stigmatisent les personnes homosexuelles. Mais bon, il y avait Idrissa Gueye au PSG qui, il y a quelques années, s'était fait remarquer pour ça. Moi, je pense que pour cette question-là et pour les autres questions, la Ligue gagnerait à clarifier juridiquement, en fait, la position, les devoirs des joueurs qui jouent en Ligue. France, un petit peu à l'image de ce qui se pratique aux États-Unis. Tu sais, dans ces ligues fermées.
C'est-à-dire bon, exclusion du joueur.
C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu signes un contrat avec une équipe qui joue ce championnat, bon, il y a des obligations de temps dédié à la presse, de temps dédié aux supporters, des obligations de se prêter aux campagnes de communication de la ligue, parmi lesquelles cette journée de lutte contre l'homophobie. Voilà, tu joues en France, c'est une obligation avant de signer le contrat. Voilà, si et puis en effet, tu t'y soustrais, tu es exclu ou
Donc Mostafa Mohamed qui a pris une amende de la part de son club, il devrait plutôt être exclu de son club.
Oui, je sais pas, mais en tout cas que les choses soient claires et que les mecs, enfin que les joueurs qui signent dans le championnat de France sachent que ça va avec des obligations. Embrasser un petit peu les projets et la communication de la ligue pour laquelle tu joues.
Vous avez lu les commentaires, j'imagine, de Mostafa Mohamed qui a voulu réagir et a précisé sa pensée. Alors vous pouvez me dire évidemment ce que vous en pensez, mais ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que Mostafa Mohamed va être sanctionné par Nantes. Nantes qui va reverser ce chèque à une association, c'est-à-dire que directement Mostafa Mohamed, qui ne veut pas participer à cette journée de lutte contre l'homophobie, fait un chèque à une association qui lutte justement contre l'homophobie. C'est quand même marrant.
Ouais, c'est assez paradoxal. Ça progresse, oui, mais moi, ça me dépasse. Et on devrait même pas avoir abordé ce sujet. Ça me dépasse que dans le sport, on n'accepte pas, dans un vestiaire, on n'accepte pas les gens tels qu'ils sont, quoi, et que d'avoir qu'il y ait des coéquipiers qui puissent pas jouer parce qu'on met un flocage arc-en-ciel parce que on défend une cause entre guillemets où il y a une minorité qui est homosexuelle et contre l'homophobie, contre les insultes qui peuvent faire face ou contre le regard de certaines personnes, et ben qu'il y a une journée là-dessus et que du coup il y a des joueurs qui refusent de jouer.
En fait, Julien, si je peux me permettre, je pense dans les témoignages de joueurs qui tentent et souvent maladroitement de se justifier, mais bon, qui au moins vont au mastic, quoi. Ils disent, bon, voilà,
je vais faire la promotion, c'est ça.
Bah, c'est-à-dire que voilà, il y a un problème de perception de la part de leurs fans ou de, pour certains, de leurs compatriotes, et notamment pour des joueurs africains, souvent. La perception du public, c'est-à-dire que manifester son soutien à la lutte contre l'homophobie se transforme en promotion, je sais pas appeler ça comme vous voulez,
de l'homosexualité.
De l'homosexualité, et donc il y a un problème de communication, de lisibilité, et
je pense qu'on a quand même suffisamment rappelé.
En tout cas, c'est la justification qui est donnée
par argument, vous allez me dire, il vaut ce qu'il vaut, mais il y a aussi une journée de lutte contre le racisme, et c'est très bien de le faire en Ligue 1. Heureusement, même si on n'aurait pas besoin de le faire. Mais on le fait, ok, dont acte. On n'imagine pas un joueur dire « Ah non, c'est contraire à mes convictions et à mes valeurs. » C'est un peu ce que nous dit Mostafa Mohamed. « Non, je ne peux pas faire ça parce que c'est con. » Vous vous rendez compte le tollé que ça ferait si quelqu'un faisait ça? Heureusement, et je vous donne la parole Marion et Marc, heureusement, il y a quelques joueurs, notamment Jonathan Clauss qui a pris la parole dans l'équipe. Et c'est vrai que ce genre de parole peut faire du bien, en tout cas. Et il dit, certains joueurs ne veulent pas entendre parler d'homosexualité. Ils se disent, si j'accepte, on va penser que... Mais moi, je m'en fiche complètement, je n'ai aucun problème avec ma sexualité. Je ne comprends pas que la vie des autres nous impacte alors qu'elle ne nous regarde pas. Je me dis en quoi ça te concerne. Et il ajoute, pour moi, ça ne changerait absolument rien, mais pour d'autres, peut-être pas. Certains joueurs diraient, je le respecte, je lui dis bonjour et au revoir, mais à part ça, je ne lui parle pas. C'est très compliqué de faire changer les mentalités, car pour la plupart des joueurs, le monde, c'est un homme et une femme. Fin de citation. Marc Madiot.
Moi, je pense qu'il faut sanctionner, prévoir dans la réglementation et dans les contrats des clauses qui sanctionneront toute prise de position contraire. Après, je pense quand même que c'est des débats et des sujets qui ont très largement progressé. On n'est plus dans les mêmes situations qu'il y a quelques années. Donc, je pense qu'il faut continuer à sanctionner, rationaliser peut-être davantage le mode de sanction et puis éviter de peut-être d'en faire trop écho. En fait, là, on s'arrête sur un joueur de Nantes. Il est peut-être tout seul ou ils sont de moins en moins nombreux. Donc, est-ce qu'il faut continuer à vraiment en parler? Je ne sais pas.
Ok. Marion?
C'est un sujet qui est très compliqué parce qu'effectivement, là, dans le message de Mostafa Mohamed, en fait, il exprime le fait que dans la religion qu'il pratique, comme c'est une religion qui est extrêmement ancrée pour lui et qu'il tient à respecter cette religion, effectivement, il a un souci avec le fait de pouvoir porter ce maillot. Alors, j'ai essayé de regarder un petit peu d'autres joueurs dans d'autres championnats, puisque la Ligue 1 n'est pas le seul championnat qui organise ce genre de journée ou même de semaine, hein, parce qu'en première ligne, c'est une semaine complète avec des clubs qui sont totalement, même qui font plus que ça, hein, qui vont au-delà de simplement porter soit un brassard, soit des lacets aux couleurs de l'arc-en-ciel, qui essayent de faire des ateliers de sensibilisation, qui essayent d'aller dans les communautés aussi de supporters pour justement sensibiliser sur tous ces problèmes d'homophobie. Et je pense qu'il y a un distinguo à réaliser qui me paraît important. Le plus important quand on fait cette journée, c'est aussi de pouvoir autoriser les spectateurs qui font partie de cette communauté LGBTQ+, à pouvoir aller assister à des matchs de foot sans se faire insulter ou traiter tous les noms quand ils marchent vers un stade parce qu'on leur dit que c'est pas pour eux et qu'ils n'ont pas le droit d'aller voir un match de foot. Donc cette situation reste quand même assez ancré, malheureusement. Et je pense qu'il y a énormément de progrès à faire là-dessus. Et puis, il y a effectivement certains joueurs qui, par leur conviction religieuse, quelle qu'elle soit, s'opposent parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont avoir des répercussions dans leur pays. Alors pour Mostafa Mohamed, il est égyptien, il est attaquant en Égypte, qui vont être trop importantes, des répercussions éventuellement sur leur famille qui habite encore dans ce pays, et que donc il ne veut pas, entre guillemets, porter ce maillot ou prendre ce risque. Ça, c'est une question qui est nettement plus épineuse, et je pense que c'est des questions beaucoup plus politiques et que c'est pas à moi à pouvoir la régler en 5 minutes là à la fin de l'émission. Ce qui en revanche m'interpelle profondément, c'est qu'est-ce qu'on fait au-delà de cette journée pour qu'effectivement on arrive à promouvoir l'égalité pour tous, que chacun ait le droit de d'avoir la sexualité qu'il désire sans être insulté lorsqu'il va assister à un match de foot ou même à un autre match, à un autre sport, et comment on peut arriver à faire avancer les choses tout au long de l'année et pas uniquement mettre un projecteur là juste sur cette journée, mais avoir une cause beaucoup plus large et beaucoup plus sur un temps beaucoup plus long.
Et je rappelle évidemment, pour clore ce débat, que l'homophobie est un délit. Il est 11h44, on va évidemment de nouveau débattre dans cette émission avec un débat caché, beaucoup plus léger, mais passionnant. Attention, c'est dans quelques instants, et j'en connais un autour de la table qui va faire des bons. J'en connais un qui va faire des bons. Voilà, ça c'est juste un petit indice pour le débat caché, c'est dans quelques instants sur RMC. Restez bien avec nous, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h48, de retour dans les grandes gueules du sport. Marc Madio, Marion Bartoli, Julien Beneteau, Simon Dutin. À partir de midi, les paris RMC, évidemment, autour de la dernière journée de Ligue 1. On va s'intéresser à cette lutte pour la quatrième place ce soir, qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, mais également au maintien. On vous donnera toutes les cotes, évidemment, et tous les meilleurs conseils. Ça, c'est à partir de midi. Mais tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir débattre. Avec leur sensibilité, avec leur âme, avec leur cœur de champion, comme dirait Denis Charvet, même s'il ne le dit pas aussi bien. Le débat caché, votre guet-apens aujourd'hui. C'est ça.
Pogacar seul en tête, 32 secondes d'avance sur les autres favoris. C'est Ben O'Connor qui a complètement explosé, qui a essayé de suivre Tadej Pogacar, qui était le dernier à tenir sa roue. Il a complètement explosé. T'as raison Christophe, faut pas faire ça. Il l'a fait Tadej Pogacar. Hier il n'avait pas apprécié d'arriver à 3. Il avait perdu ce sprint. Il prend sa revanche tout seul, comme un grand Tadej Pogacar, qui s'impose donc pour cette deuxième étape au sanctuaire d'Europa. La Vierge Noire qui lui sourit. Il a pris 26 secondes d'avance sur ses poursuivants. Un petit peu plus, 30 secondes d'avance pour Tadej Pogacar. Mais voilà, on est juste à la deuxième étape. Tadej Pogacar qui revêtit le maillot rose.
Oh, le maillot rose. Oh, il y a un indice. On va pas parler de Tadej Pogacar. On va parler du maillot rose. On va parler du Giro. La huitième étape, c'est aujourd'hui. Alors après Israël en 2018, la Hongrie en 2022, l'Albanie en 2025, le Giro 2027, peut-il partir d'Australie? Point d'interrogation. Selon la presse italienne, cette hypothèse est dans les tuyaux. Perth. Je dis bien Marion?
Non. Toujours pas.
Tu dirais comment?
Drapper? Purse.
Purse.
C'est pas mal.
Purse.
Purse.
Purse. Alors là, c'est pas une patate qu'il faut avoir dans la bouche, c'est quoi? C'est une cigale.
Ça va appris l'anglais, Purse. Je sais pas.
Purse.
Éventuellement.
Melbourne, yeah. Ou encore Sydney. Serait intéressé par le projet. Nous n'excluons rien. C'est le patron de l'organisation du Tour d'Italie qui n'a pas démenti cette information cette semaine. Pour rappel, 14 000 km séparent les deux pays. Le Giro en Australie. Est-ce insensé? Oui ou non? Marc Madiot.
Oui.
Simon Dutin.
Oui.
Marion Bartoli.
Ça n'a plus aucun sens.
Julien Beneteau.
Insensé.
Insensé également. Marc, sur cette information, j'imagine que tu l'as vu, j'imagine que tu as décortiqué tout ça.
Non.
Qu'en pense le patron de la Groupama FDJ?
Non, mais j'y crois pas une seconde. Bah, aujourd'hui, comment réaliser? Alors après, ou alors on change complètement la réglementation sur une course par étape. Mais aujourd'hui, un grand tour, c'est 3 semaines. Combien même on accorde aux organisateurs le droit d'avoir une journée de repos supplémentaire et de partir un jour plus vite une fois tous les 4 ans, si on respecte la réglementation, je vois mal comment on pourrait aller faire quelques étapes en Australie avant de revenir en Italie derrière. Je pense que l'organisateur du Giro veut faire un peu de buzz pour peut-être nous réserver d'autres surprises ailleurs, mais je vois mal aujourd'hui comment on pourrait aller en Australie alors qu'on n'a pas encore été aux États-Unis, parce que pendant une période, il y a une petite trentaine d'années, à l'époque du Concorde, on parlait beaucoup d'un départ du Tour de France, notamment à New York. Avec le Concorde, c'était du domaine de l'envisageable. Bon, le Concorde n'existe plus. On est plutôt rentré dans un peu plus de raison et on est beaucoup plus raisonnable dans la création et le développement des grands tours. Moi, franchement, j'y crois pas.
Tu crois pas du tout?
Non.
Parce que, et tu l'as rappelé, cette petite musique de oui, c'est en Europe et tout ça, mais on sent que plus les départs en Europe s'accentuent, plus à un moment donné, on va arriver
oui,
sur un départ qui va. D'ailleurs, le Giro avait innové hors d'Europe, en Israël.
J'y étais en Israël. Et finalement, ça avait été très bien organisé et c'était parfaitement réalisable et ça a été bien réalisé. Après, on est quand même dans une période où l'écologie prend de plus en plus de place, notamment dans le débat public. aujourd'hui, être organisateur de grand tour, quel qu'il soit, et s'en aller sur un autre continent pour donner le départ de l'épreuve, ce sera difficile.
Le bilan carbone, il va pas être terrible.
Bah, regarde ce qu'on fait avec la Coupe du Monde de foot.
Ouais, mais la Coupe du Monde de foot, c'est une fois tous les 4 ans. Ouais, mais c'est tous les 4 ans. Je vois mal un organisateur de grand tour aujourd'hui aller prendre le départ du tour ou d'un grand tour à New York ou en Australie. C'est encore plus loin l'Australie.
Ok, personne n'y croit, Simon.
Non, bah évidemment, c'est insensé. Il y a aucun lien entre l'Australie et l'Italie. Quand tu démarres d'un pays frontalier, bon, il y a en effet, je sais pas, une relation de voisinage, de proximité. Je veux dire, tu peux t'identifier. Le rapport entre l'Australie et l'Italie, je le vois pas. Tu soulignais, il y a 14 000 kilomètres, un peu d'eau aussi quand même. Donc, en effet, ça se fait en avion. J'entends déjà ceux qui vont me dire « Oui, mais regardez, le Tour de France veut aller dans les dom-tom. Et je pense que... ce serait... ça aurait un sens et ce serait une raison justement acceptable, tu vois, de le bilan carbone, tout ça. Mais bon, là, je parle sous le contrôle de Marc, l'intérêt en plus topographique de l'Australie pour États qui ne se passent rien, c'est tout plat. Il n'y aurait rien à y gagner en termes de spectacle.
Non, et vous parlez de spectacle, vous parlez comme si vous ne niez l'économie.
Non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est pas que j'y crois pas, moi. Tu m'as dit si c'est insensé. C'est insensé, mais je pense qu'ils vont le faire.
Non.
Économiquement. Aujourd'hui, comme tu l'as bien répété, la FIFA, ils ont donné le même jour, ils ont donné la Coupe du Monde à la Russie et au Qatar. C'est pour le développement du football. Arrêtons de prendre pour les cons. Si le patron du Giro, il prend une tonne parce que l'Australie paye pour un truc, et aujourd'hui, l'économie achète tout. Les Émirats arabes achètent tout, et on va avoir les Jeux d'été, on va avoir les Jeux d'hiver, on va avoir tout là-bas à un moment donné. Donc, pour moi, c'est insensé. Il y a rien sportivement. Il y a aucun spectacle. Il y a aucun lien entre l'Australie et l'Italie géographiquement, géopolitiquement. Enfin, il y a aucun sens. Mais est-ce que ça va se réaliser un jour? Moi, j'explique pas parce qu'aujourd'hui, l'économie prend le dessus sur tout.
Ok, t'y crois, Marion?
Non, mais moi, j'y crois pas une seconde. En plus de Perth en Italie, il y a quoi, 18 heures d'avion? 17, 18 heures d'avion, t'as, il me semble, à peu près 9 heures de décalage horaire, 8, 9 heures de décalage horaire. Donc, tu fais comment pour enchaîner derrière? Je vois pas comment c'est possible. C'est impossible de faire une liaison et de faire un tour avec le nombre de jours de récupération en enchaînant Australie et Europe. Enfin, déjà, nous, en tant que joueurs de tennis, quand on doit rentrer d'Australie pour venir en Europe, il faut déjà une semaine pour récupérer des décalages horaires et se remettre du différent climat. Là, je vois. En plus, on est dans l'hémisphère sud par rapport à l'hémisphère nord, donc on n'est pas du tout dans la même temporalité en termes de saison. Donc, si tu le fais à cette période-là, en hémisphère sud, on n'est pas du tout dans les mêmes climats, dans les mêmes températures. Je vois pas comment. Alors après, j'ai lu les déclarations de Mauro Venni, le patron de RCS, qui dit qu'en fait, il reçoit de nombreuses demandes de l'étranger et qu'il les évalue toutes et qu'il dit non à personne. Donc, je pense que voilà, il a pas dit non, mais il a pas dit oui non plus. Je pense qu'on est très loin d'avoir dit oui. Il y aura plus de chances que ça parte des États-Unis avant que ça parte de l'Australie.
Ça pose des questions si déjà il se pose la question lui-même, tout de même.
Mais la pose,
c'est un ballon d'essai. C'est ouais, pour non, voir ce que ça donne. Juste information, parce qu'on en parlait dans cette émission. David Gaudu repart bien pour la 8e étape du Giro.
Il sera au départ, puisqu'on nous écoute en Italie.
Et t'as reçu des messages de tes équipes.
D'Italie, et qui me confirme que David Gaudu sera bien au départ tout à l'heure.
Bon, et toi, tu leur tapes sur les doigts en disant oh, faut pas écouter les GG là, faut être sur la course, les mecs.
Non, je les encourage à écouter les GG.
Ah, merci beaucoup Marc, qui est à la fois GG mais patron de la groupe
AMA. Bien sûr, ils écoutent les GG, ça les détend.
Ça les galvanise. Merci beaucoup les amis d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour de nouvelles grandes gueules du sport. Merci infiniment de votre fidélité. On va se retrouver dans quelques instants pour les paris RMC autour de la dernière journée de Ligue 1. Évidemment, on va tout vous dire et on va vous donner plein de cotes. Allez, à tout de suite sur RMC.